L'homélie de ce week-end vous est présentée par le père Christian Robert, prêtre du diocèse de Cahors du groupement paroissial de Montcuq.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint, et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit, le suppliait. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. J'ai presque envie de commencer cette homélie en souhaitant une bonne fête à toutes les Laetitia. Car vous savez bien que ce prénom vient du latin Laetitia, qui signifie la joie. La joie qui est le programme de ce quatrième dimanche de carême, qui se décline en un seul mot. Laetare, réjouis-toi. Pour faire référence à l'introït, l'introduction de l'Eucharistie de ce dimanche. Laetare, Jérusalem, réjouis-toi, Jérusalem. Gaudete cum laetitia, qui tristitia fuistis. Soyez dans la joie, vous qui étiez dans la tristesse. C'est une formule extraite du chapitre 66 du livre d'Isaïe. Cette phrase donne résolument le ton à notre dimanche de la mi-carême, 3 semaines après le premier dimanche de carême et 3 semaines avant le dimanche de Pâques. C'est donc une météo de mi-saison qui nous est offerte, mêlant invitation à se réjouir, sans pour autant perdre de vue le projet global de ce temps de carême, la conversion du cœur. « Laissez-vous réconcilier avec Dieu », nous dit l'apôtre Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Nous sommes invités à nous réjouir parce que, plus encore que la semaine dernière, nous pouvons découvrir aujourd'hui que notre Dieu n'est pas un justicier sourcilleux, mais un Père de miséricorde. Et ce jusqu'à l'extrême, comme le rapporte Luc au chapitre 15 de son évangile. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Qui de nous, en effet, abandonnerait 99 brebis dans le désert pour partir à la recherche de la 100e qui est égarée? Même si nous aussi nous sommes prompts à focaliser notre attention sur les bad boys plutôt que sur les mecs bien, les perturbateurs plutôt que sur les bons élèves. Le célèbre tableau de Rembrandt qui traite du fils prodigue nous dépeint d'ailleurs cela à merveille. En regardant les deux mains du père, le regard avisé peut reconnaître une main d'homme qui saisit et rassure, et une main de femme qui caresse et adoucit. Un Père tout-puissant qui a pour nous l'amour d'une mère. Nous sommes invités aussi à nous réjouir, car notre Dieu est un Dieu qui libère et non un Dieu qui enferme ou asservit. Il avait promis aux Israélites de les libérer de la servitude en Égypte, et c'est désormais chose faite. Dans l'extrait du livre de Josué qui est proposé aujourd'hui, il nous dit « J'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte ». Et le peuple ne manque d'ailleurs pas de célébrer cela dignement. Les fils d'Israël célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois. Notre liberté a d'ailleurs tant de prix à ses yeux, le Seigneur, que dès que nous sommes en mesure de voler nos propres ailes, il sait couper le cordon, comme on dit. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'il mangeait des produits de la terre. Nous sommes invités à nous réjouir, aussi, car il sait nous prendre tels que nous sommes, pour nous aider à réaliser ce pour quoi nous sommes faits. De ce point de vue, on ne peut pas ignorer que la parabole du fils prodigue s'adresse aux scribes et aux pharisiens juifs venus écouter Jésus et qui récriminent et lui reprochent de faire bon accueil aux pécheurs et de manger avec eux. De là à comprendre qu'ils sont, eux, les spécialistes et gardiens fidèles de la loi du Seigneur, comme le fils aîné de la parabole, qui reproche à son père de faire bon accueil à son frère, le trublion de la famille, de retour à la maison. Il n'y a donc qu'un pas à franchir, car la vérité est que chacun des deux fils est, à sa façon, potentiellement perdu pour le père, à un moment ou à un autre du récit. Le fils cadet se montre égoïste, car il agit comme si appartenir à une famille donnait seulement des droits et pas aussi des devoirs. Le fils aîné, lui, se montre égoïste, car il est convaincu que sa fidélité crée des obligations pour le père, dont il n'est que l'héritier. En ce sens, tous les deux se montrent suffisants. Mais à terme, le fils cadet revient de sa suffisance, alors que dans le cas du fils aîné, sa suffisance se part de vertu, comme pour les scribes et les pharisiens. Ils voulaient le Messie et la promesse du salut pour eux tout seuls, au mépris des païens qui ne respectent aucun des préceptes de la loi juive. Mais Jésus remet les pendules à l'heure. Il festoie avec les païens, les publicains et les pécheurs qui viennent à lui comme le Père se réjouit avec son Fils prodigue qui revient au bercail, non pas pour les conforter dans leurs péchés, mais pour les appeler à la conversion en leur faisant voir tout ce qu'ils ont manqué. Au final, on ne connaît pas vraiment le mot de la fin de cette histoire. De ce point de vue, la parabole reste ouverte, comme si c'était à nous d'écrire la suite et la fin. On retiendra que le péché, au final, ne se contente pas de nous éloigner de Dieu, mais il nous fait également croire qu'il nous rend indignes de Dieu, n'en déplaise à Paul dans sa lettre aux Romains. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive ? J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. La vérité est que la conversion, qui passe par l'acceptation de notre péché, nous permet d'expérimenter à nouveau frais l'amour inconditionnel de Dieu qui nous rétablit dans notre dignité d'enfant de Dieu. C'est pourquoi il ose nous dire aujourd'hui dans la deuxième lettre aux Corinthiens « Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est pourquoi nous sommes tous invités à nous réjouir en ce dimanche de l'étaré, car Dieu n'est pas comme Jacques Dutronc. Il ne se contente pas d'aimer les filles. Il aime toute l'humanité. Alors, si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Et si vous êtes comme ci, téléphonez-lui. Pour ne pas laisser cet appel à la conversion et au partage sans réponse. Nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui nous lance un appel. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Amen.